50 d'inscriptions plus ou moins en une dizaine de jours, donc c'est plutôt positif, et puis on espère que ça va aller que exponentiellement.
Bon, on parle gravel, Thierry Favre, je me tourne vers vous, mais quand on parle gravel, c'est une discipline relativement jeune, hein, du cyclisme, en quelques mots, vous pouvez nous la présenter un petit peu ?
Voilà, c'est une discipline très jeune. Elle est basée sur un vélo de route avec des pneus avec une plus grosse section. Ça s'apparente à des vélos de cyclocross. Et du coup, ça permet quand même de rouler sur des chemins blancs et de découvrir des nouveaux itinéraires en montagne.
Par rapport au cyclocross, il y a une différence ?
Alors oui, la différence, ils sont un tout petit peu plus confortables aussi, un peu moins race. Et puis, dans la partie cyclocross, on n'a pas forcément de porte-gourde non plus. Donc là aussi, les parcours sont aussi beaucoup plus longs. Les cyclocross, généralement, c'est autour de 1h, 1h30 les parcours. Donc là, sera, les parcours que l'on va offrir seront un petit peu plus longs sur la durée.
Quand on regarde les distances de ces parcours, il y en a trois différents. Il y a 100 km, 70, 30. Déjà, pour ces trois différences, est-ce qu'il y a certaines catégories qui sont ouvertes à certaines personnes et d'autres à d'autres ?
Alors voilà, le parcours roi, on dira, ou reine, hein, bien entendu, c'est le parcours où on peut se qualifier aussi pour la finale des championnats du monde qui aura lieu en Belgique début octobre. Et après, pour certaines catégories de personnes un petit peu plus âgées, il y aura les 70 km aussi qui leur permettront aussi de se qualifier. Et qui sera aussi un petit peu plus accessible pour les populaires. Et le 30 km, ça c'est vraiment ouvert à tous, pour vraiment vous faire une découverte de la discipline et surtout aussi de la région.
Ouais, on a envie de faire connaître cette discipline du gravel au plus de monde possible.
Oui, voilà, c'est vrai qu'on voit aussi au niveau du marché que plus de 50% des vélos typés route avec un guidon route, c'est des vélos de gravel qui sont vendus. Donc si on peut aussi offrir la possibilité à ces gens-là de venir découvrir la région sur des tracés attrayants, c'est aussi un des buts aussi de la course.
Ce terrain de jeu de la région du Midi, comment est-ce qu'on pourrait le décrire ?
Alors voilà, ça se retranscrit aussi dans le terme que nous on a mis aussi dans le nom de la course, donc le Alpine. Donc c'est quand même alpin avec des paysages assez fous, donc les Dents du Midi, mais pas que. Il y a aussi les Dents Blanches. Il y a toute la partie aussi française des Portes du Soleil qui sera aussi mise en avant. Donc voilà, on part vraiment sur des paysages alpins avec aussi des passages un petit peu plus raides que certains parcours en plaine. Quoi.
Cette manche de Coupe du Monde de Gravel sera la première d'ailleurs qui est transfrontalière, hein, entre la Suisse et la France. Pour la région, pour région Dents du Midi, pour le Chablais, on a quand même, c'est une sacrée opportunité aussi de se mettre en avant, on imagine, Yannick Ducrot.
Oui, c'est le but aussi de la collaboration avec Montet, donc qui s'ajoute à la collaboration avec région Dents du Midi. Et les communes de toute la vallée, bien sûr, et de l'association des Portes du Soleil. C'était notre but de faire découvrir vraiment la totalité de notre région, pas seulement région Dents du Midi, mais aussi tout ce qui est à notre disposition tout autour, le faire découvrir aux gens via la participation à des courses, mais aussi tout simplement via des belles images. Donc ça, c'était vraiment le but qu'on souhaitait mettre en avant, la totalité de la région, Montet, Dents du Midi et Portes du Soleil, ouais.
Le gravel, c'est pour cette année, c'est pour 2024. Est-ce que, suivant le succès, on pourrait retrouver cette discipline-là dans le cadre du Back and Sound ou dans d'autres cadres dans la région Dents du Midi ? C'est un objectif, ça ?
Je pense que oui. Après, on fera le point après le 9 septembre aussi, suite à cette première expérience pour nous. Dans la dynamique régionale et aussi dans la dynamique de notre club, la pratique du gravel va aussi se développer de plus en plus. On voit que les gens aussi, ils ont de moins envie de rouler sur la route, avec tous les problèmes routiers qu'il y a. Donc le gravel a quand même un bel avenir pour nous dans la région et aussi dans toute la Suisse.
Et on notera encore que le Bike and Sound Festival se tiendra cette année du 6 au 8 septembre sur le parking du Grand Paradis.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Place à présent au ski alpin. Jusqu'à cette fin de MAC d'ailleurs, Thierry, tu reçois l'une des révélations de cette saison, rien que ça.
Ouais, exactement. Première saison en Coupe du Monde, un podium, 4 top 10, 6 top 15. On peut continuer encore un petit moment. Moi, c'est peu dire qu'il a surpris beaucoup de monde. Nous recevons ce soir le skieur de Martigny, Arnaud Boisset. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Moi, je disais surpris son monde, mais est-ce que vous le premier, vous étiez surpris de votre saison ?
Oui, clairement. Dès la première course, en fait, je connaissais mon niveau, mais je savais pas ce que ça valait à l'échelon de la Coupe du Monde. Et du coup, je me suis surpris toute la saison, honnêtement.
Oui, une saison que vous bouclez au 11e rang du classement général du Super G. Pour un rookie, c'est un peu fou. De mémoire, on n'a pas vraiment vu ça ces dernières années. Vous, comment vous l'avez géré ? Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez énorme, on imagine. Niveau pression, niveau les gens qui viennent autour de vous, il y a énormément de monde.
Ouais, clairement. Alors maintenant, quand on regarde, c'est clair que ça paraît une montagne insurmontable, mais en fait, c'était des petits steps, course après course. J'ai commencé à Val Gardena et ensuite, ça s'est gentiment construit. Et puis, au fil des courses, j'ai appris sur moi-même, j'ai pris plus en plus confiance et finalement, ça a fini en apothéose lors des finales. Donc, la saison dans l'ensemble est une réussite, mais c'est la succession de petites victoires.
Ouais, il y a un moment où on se dit, mais c'était, ben vous l'avez parlé de cette première course à Val Gardena, c'est déjà un top 20, une 19e place en Super G. Il y a un moment où on se dit, bon, on enchaîne les résultats, on se dit, bon, forcément, c'était peut-être pas un résultat qui sort de nulle part, mais j'ai trouvé une sorte de stabilité. Vous l'avez eu ce moment dans la saison?
Ouais, après ça a été très très vite. Alors je l'ai réalisé sûrement avec un petit peu de latence, mais je pense que après Wengen, je me suis dit bon bah voilà, il y a eu trois Super G, je suis allé trois fois dans les points sur trois pistes totalement différentes, des conditions de neige totalement différentes. Je me suis dit finalement je vole ma place à personne. Là j'ai peut-être ma place dans le top 30 mondial et puis à partir de là ça a été encore encourageant pour la suite parce que j'ai pris plus en plus confiance et puis du coup c'était plus facile.
La confiance dans votre sport, vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois ce mois depuis le début de l'interview, ça représente quoi?
C'est essentiel, c'est la clé du succès, je crois, la confiance. Nous, on a 1 minute 30 pour montrer le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de place à la réflexion. Et du coup, quand on a la confiance, on est dans le flow, on ne réfléchit pas, on y va et ça fonctionne. Et c'est vraiment ça qui nous permet d'atteindre les sommets.
Et vous terminez sur le sommet, en tout cas sur la boîte. C'était une troisième place à Salbar. C'était les finales de Coupe du Monde en Super G. Vous étiez lancé par les premiers, triplé suisse cette journée. J'imagine qu'elle a encore une place très spéciale dans votre mémoire et dans votre cœur.
Ouais, c'était la folie. Au niveau émotionnel, c'était vraiment voilà, je me souviens pas avoir vécu quelque chose d'autant fort dans ma vie. Donc c'est lancé parmi les premiers, c'était une chose, mais du coup j'arrive à l'arrivée et puis je peux pas non plus exulter comme j'ai pu le faire les autres fois dans l'hiver parce que mon classement n'était clairement pas définitif, il restait encore une vingtaine de très bons coureurs au départ. Et puis après, au fil des coureurs, j'ai compris un petit peu, enfin disons que ma performance a commencé à prendre du sens. Et après, quand je vois Krishmeyer qui passe derrière, Dermat qui passe derrière, je me dis bon voilà, plus grand monde qui pourra me battre aujourd'hui. Et puis là ça commence vraiment à être fort et ouais, je l'ai vécu avec tellement d'enthousiasme que j'ai plus tous les souvenirs.
Ouais, on l'imagine. Bon, vous étiez lancé avec un tout petit numéro de dossard lors de ces finales. On le rappelle, c'est les 25 meilleurs qui participent, les 25 meilleurs de la discipline. Bon, le reste de la saison, il y a eu des dossards un peu plus élevés. C'était plutôt autour du 53-54. Quand on s'est lancé avec un plus petit dossard pour des finales, il y avait une espèce de pression que vous n'aviez pas ressentie plus tôt.
Ça va, parce que voilà, je pouvais me lancer les 20 premiers et puis j'avais une chance sur deux de partir entre 1 et 5 et une chance sur deux de partir entre 16 et 20. Et c'était quand même un avantage vu la température qu'il faisait à Salbar et il faisait assez chaud, la neige ramollissait vite. Donc l'objectif c'était quand même d'avoir un dossard entre 1 et 5. J'ai eu un petit peu de chance de ce côté-là puisque j'ai tiré le 5 et puis je me suis dit, ben voilà, il y a pas mal d'étoiles alignées, il faut prendre sa chance et puis tu peux pas la laisser passer. Donc vas-y, skie à fond et puis on verra ce que ça donne.
C'est le moment de votre saison, ça, cette dernière course à Salbar?
Oui, clairement, mais il y a eu tellement de highlights dans ma saison. Parce que déjà, juste ma première Coupe du Monde, de franchir la ligne à Val Gardena, bah, ça, c'était un aboutissement personnel que ça fait plus de 10 ans que je cours après. Et après, par exemple, hein, mon premier top 15 à Wengen, devant le public suisse, c'était aussi exceptionnel. Avec l'histoire de Kitzbühel, quand j'arrive à l'arrivée à Kitzbühel, où il y a encore des milliers de spectateurs qui sont là et qui attendaient plus que moi parce qu'il n'en restait plus beaucoup au départ, ça, c'était aussi émotionnellement très, très fort. Et puis, ben, Salbar, forcément aussi. Mais comme je l'ai dit, je l'ai réalisé peut-être un petit peu plus au courant de la course qu'au moment où j'ai passé la ligne.
Ouais, puis il y a un dénominateur commun avec tous ces exploits dont vous nous parlez, c'est qu'il y a votre fan club aussi qui vous suit partout, on les reconnaît assez facilement avec les chapeaux roses, mais ça aussi, d'avoir eu ce soutien tout au long de la saison, c'était quelque chose qui vous a motivé.
Clairement, ouais. Là, on est bientôt à 700 membres. C'est quelque chose que, quand on l'a lancé au mois de septembre, on n'y croyait pas. Enfin, voilà, on a l'objectif de 150 membres. Et puis, de les voir, de pouvoir partager ses émotions, ça décuple tout. Parce que, quand on est à l'autre bout de la terre, par exemple, quand j'étais en Norvège, j'ai fait une bonne course, je finis 8e, mais c'était pas pareil parce que je suis rentré dans ma chambre, il y avait plus personne et tout. Tandis que à Wengen, à Garmisch ou même à Salbar, quand il y a les copains, la famille qui sont là, avec qui on peut partager, on peut un petit peu débriefer sur la course, et ben c'est franchement ça rend le tout avec encore une petite touche de meilleur.
Arnaud Boisset, on vous retrouvera juste après la pub. On va aborder ainsi vos années de Coupe d'Europe. On reviendra quand même un tout petit peu encore sur cette saison. Et puis préparer évidemment la prochaine. L'été arrive, la préparation aussi. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
La mi-temps est terminée, on est de retour dans ce mag du lundi spécial sport. Nous parlons toujours de ski alpin avec Thierry Nicolet et ton invité Arnaud Boisset. C'est marrant, j'ai remarqué tout à l'heure Arnaud Boisset que vous parliez de, vous disiez que la confiance c'était la clé du succès. Donc moi j'ai envie de vous dire qu'on vous souhaite plein de confiance, mais vous avez aussi dit que vous atteignez des sommets. Mais comment on fait quand on est skieur de descente?
Excellent, c'est plus compliqué. Alors nous voici, on a parlé de ce début de saison évidemment, c'est cette saison qui était exceptionnelle. Bon, vous avez passé de longues années en Coupe d'Europe, hein, vous, avant de faire ce bond en Coupe du Monde. Bon, on a l'habitude de dire que c'est une transition difficile, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, spécialement en vitesse. Pour vous, ça s'est passé comme sur des roulettes. Comment vous l'expliquez ça?
Ouais, clairement, moi j'ai passé quand même 2-3 années, c'était pas des années de galère, mais c'est quand même voilà, le circuit Coupe d'Europe, il y a beaucoup moins d'exposition, il y a quasiment le même niveau qu'en Coupe du Monde, et puis finalement il y a moins de reconnaissance. Et c'est pas si facile parce que c'est presque pareil, mais avec beaucoup moins de confort, et puis bon, tout ce qui est fait autour, c'est toujours un petit peu plus compliqué, quoi. Donc on est toujours relégué au deuxième rang, c'est l'antichambre de la Coupe du Monde, etc. Moi j'ai passé, selon mon opinion, j'ai passé beaucoup d'années en Coupe d'Europe. C'était 4 saisons depuis mon premier podium jusqu'au moment où j'ai eu ma place fixe, donc c'est beaucoup. C'est clair qu'il y a eu des blessures et tout. Finalement, c'est mon chemin, c'est ma carrière, et je pense que j'ai acquis pas mal d'expérience durant ces années, et puis ça m'a permis d'arriver en Coupe du Monde avec un peu plus de bouteilles. Et j'ai du mal encore à l'avouer, mais honnêtement, c'était un mal pour un bien. Parce que là, je suis arrivé en Coupe du Monde en me connaissant moi-même beaucoup mieux, et puis en étant prêt à performer à l'échelon supérieur, avec plus de maturité aussi dans mon ski, je pense.
Il y a un certain ras-le-bol qui s'installe quand on a dit on passe 4 ans, 4 saisons en tout cas dans cette Coupe d'Europe.
Alors, ras-le-bol, c'est peut-être un petit peu fort, mais c'est clair que c'est pas tout le temps facile. Moi, je me souviens de jours de course sur des pistes relativement faciles où j'arrivais pas à performer et où je faisais tout pour optimiser, mais que voilà, ça suffisait pas. Et puis, j'étais là, je voyais plus trop d'avenir, ou en tout cas, l'avenir était dans le brouillard. Et puis après, au fil du temps, quand je refais mon podium l'année passée, là ça me redonne une lueur d'espoir, et puis finalement j'ai réussi à reconstruire là-dessus, et je me suis dit ben, il faut aller décrocher de cette place fixe. C'était quasiment ma seule chance d'avoir une chance en Coupe du Monde avec la densité de l'équipe de Suisse actuelle.
Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Vous l'avez dit, c'était quand même un sacré apprentissage cette Coupe d'Europe. Il y a une chose ou deux que vous avez particulièrement pu retenir pour votre première en Coupe du Monde?
La gestion de la pression, la gestion des courses. Quand je jouais le général de la Coupe d'Europe, ben c'est clair que là, on a vraiment notre place en Coupe du Monde au bout des spatules, mais on est encore 5-6 athlètes pour 3 places, et puis c'est le jour J, il faut les battre, et puis peu importe les conditions, peu importe si ça nous convient, si on est en méga forme ou bien si on est un petit peu malade, il faut y aller. Et puis du coup, je pense que j'ai appris aussi à skier avec des risques mesurés. À l'époque, je prenais beaucoup de risques, et des fois ben ça payait pas, des fois il y a eu des crashs, et après c'est des blessures, et après c'est des longs mois de perdu, et maintenant j'ai réussi un petit peu à trouver un équilibre là-dedans, et ça m'a aidé toute la saison.
Oui, une saison, bon, on l'a bien vu hein, au niveau des résultats, que ça vous avait bien aidé. Bon, cette saison, vous n'aviez rien à prouver. Pour la saison prochaine, ben voilà, on va un peu plus vous attendre. Cette pause estivale, vous la voyez comment? Est-ce qu'on est content d'un côté de pouvoir souffler un petit peu, et on se réjouit quand même de pouvoir reprendre? On est dans quel état d'esprit?
Alors d'abord, il faut clairement, digérer cette saison, passer à autre chose, et puis penser à autre chose aussi. Donc c'est super important vraiment de bien décompresser pour après être de nouveau motivé à repasser des heures en condition physique, repousser ses limites, parce que pour moi c'est clairement la période la plus dure entre mai et septembre octobre, parce que il y a pas de course, c'est pas très stimulant, et on refait souvent des centaines et des centaines de répétitions en salle de force. Ensuite il y a le ski sur les glaciers, c'est aussi beaucoup répétitif, et puis puis c'est pas le moment où voilà où je sécrète le plus d'endorphines dans la saison, c'est clair, mais c'est un passage obligatoire pour pouvoir performer lors de la saison.
Là, vous me parlez de ces épreuves de force, il y a ce travail sur les pistes aussi, on imagine qu'il y a un travail mental, une préparation estivale, ça se prépare comment? Est-ce que on fait ça par bloc? Est-ce qu'on mélange un peu tout? Il y a une marche à suivre?
Non, on a un plan bien précis quand même. Alors en conditions physiques, c'est assez clair. On a en gros, on a 8-9 semaines où on est à fond sur la condition physique. Donc là, on construit avec des semaines à basse intensité, des semaines avec plus haute intensité, des semaines de pause, hein, parce que la récupération fait partie intégrante de la progression. Ça faut pas oublier. Et puis après, au niveau du ski, la même chose. On a pas mal de matériel à tester pour être prêt pendant l'hiver. Donc pour ça, on a les glaciers en Suisse, par exemple. Il y a aussi l'option de partir en hémisphère sud. C'est pas très clair pour le moment. On verra selon les conditions sur le moment. Et puis après, gentiment retrouver le flow de l'année passée, parce que c'est impossible de simuler le sentiment de la compétition. Et puis pour ça, juste avant les premières courses, on essaye de faire des confrontations, on essaye de se sortir de la zone de confort, et puis pour être prêt au maximum pour les premières compétitions. Ouais.
Et comment ça se passe? On est un peu dans son coin? Est-ce qu'on peut choisir un peu ce qu'on fait? On a quand même des comptes à rendre à Swisski?
Non, on s'entraîne en équipe, donc en condition physique, on est 6-7 athlètes de toute la Suisse. On fait des camps à Macolin, à Ténéro, au centre de la Suisse, à Stans. Et ensuite, en ski aussi, on est des groupes de 6 athlètes, des fois il y a 2 groupes ensemble. Donc le plan, il est clairement défini au niveau des jours de ski. La condition physique, des fois je la fais en individuel en Valais, et puis des fois je fais des camps.
Ouais, bon, on l'a dit, cette préparation finie, il y aura la saison prochaine. Il y a une saison, une pression à attendre cette saison prochaine. Vous, est-ce que vous vous êtes mis des objectifs? Est-ce qu'on a peur de pas faire autant bien, ou est-ce qu'on a envie de faire encore mieux? Comment ça se passe?
Ouais, bah c'est clair, cette année, je pense que une des raisons pour laquelle ça a bien fonctionné, c'est que depuis le début, je suis parti dans un état d'esprit comme quoi j'avais rien à perdre et qu'il fallait prendre du plaisir, que j'avais travaillé toute ma vie pour arriver en Coupe du Monde, donc fallait y aller. Et puis maintenant, c'est clair qu'il y a des pressions externes, hein, les sponsors, les médias et tout. Et puis c'est le sport d'élite, on n'aime pas voir les athlètes régresser. Donc forcément, moi j'essaye de rester moi-même, de pas me prendre la tête par rapport à ça, de repartir dans le même état d'esprit. J'aime pas trop avoir d'objectifs chiffrés, parce que ça dépend, mon sport dépend aussi tellement de la performance des autres. Et du coup, c'est clair que j'ai pas l'envie de régresser. Donc maintenant que j'ai goûté aux joies de jouer des top 15, des top 10 et puis même podium, c'est clair que j'ai envie de revivre ça. Mais on verra, j'ai pas d'objectifs encore tout à fait chiffrés.
Vous me parlez des médias, vous me parlez des sponsors. Là aussi, il y a des attentes en plus. Ça, on peut apprendre à le gérer. Il y a un apprentissage à faire mental.
C'est clair, ouais. Les médias, ben, c'est justement l'acteur supplémentaire en Coupe du Monde. Où quand on arrive notre course, ben, on doit direct livrer en guillemets une prestation aux médias, parce que ben, c'est la contrepartie pour nos sponsors d'avoir de la visibilité. Et puis c'est quelque chose qui s'apprend. On voit il y a plusieurs tactiques. Hein. On a une Lara Goute qui se met une énorme carapace et puis qui répond à très peu de sollicitations. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça, mais sur la fin de la saison, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne à dire non aussi, parce que des fois voilà, moi mon boulot c'est de skier et c'est pas de donner des interviews, donc si ça va bien dans le programme, d'accord, mais si ça perturbe mon programme de ski, eh ben, il faut peut-être remettre à plus tard.
Ouais, et puis on parle de ces interviews médias, alors quand tout va bien, on imagine que ça fait un peu plus plaisir d'aller parler à la radio, à la télé. Quand ça va mal, bon, vous l'avez pas forcément connu cette saison, mais on imagine que c'est plus compliqué là aussi. Comment on se prépare à ça entre la Coupe d'Europe, vous l'avez dit, où il y a une espèce de petite anonymat, c'est peut-être un peu fort, et la Coupe du Monde, bah c'est voilà, où il y a tous ces médias, tous ces retransmis en direct. Là, il y a un travail à faire.
Clairement, ouais. Et puis avec Swisski, on a été quand même assez bien accompagnés depuis jeune. Moi, le premier, ça m'embêtait de suivre des après-midi de formation des médias quand j'avais 18-19 ans. Mais maintenant, je vois quand même que ça servait à quelque chose finalement. Et puis, comme vous l'avez dit, dans les médias, si on dit quelque chose de travers, ça peut être pris à toutes les sauces aujourd'hui. En plus, avec les réseaux sociaux, ça devient encore pire. Et puis, un bad buzz, c'est vraiment à éviter pour un athlète. Donc, il faut faire attention. Il faut pas réagir sur le coup de l'émotion, surtout quand c'est dans le négatif. Positif, faut faire vivre ses émotions, mais dans le négatif, des fois, il faut mettre un petit filtre entre ce qu'on pense et puis ce qu'on communique publiquement.
Très bien. Bon, Arnaud Boisset, ce sera ma dernière question rapidement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été, pour la saison prochaine ?
beaucoup de plaisir parce que c'est ça le nerf de la guerre. Je dis souvent le plaisir c'est un petit peu la benzine du moteur. Et s'il n'y a plus de plaisir, il y a peut-être un gros moteur mais il avance plus.
Et bah, du plaisir, on vous en souhaite énormément. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Arnaud Boisset, d'être venu ici au studio Radio Chablais. Bah, on vous souhaite une excellente fin de soirée et une excellente saison prochaine, une préparation qui se déroule au mieux. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Ouais, encore une fois, aujourd'hui, on va aborder l'éternelle mais magnifique question que j'aimerais mais vraiment, vraiment pouvoir poser absolument la totalité de la population de cette planète. La musique, c'est quoi? Je l'ai posé à déjà plein de monde. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir une vision totalement différente. Un aspect de la musique que perso, je connais pas trop mal, mais que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est celui de manager. Je suis avec NBU. Bonsoir.
Salut, ça va ou quoi?
Ça va et toi?
Ça va tranquillement.
Bon, NBU, tu es manager et producteur auprès du label Night Shift Records, qui se trouve à Murat, c'est du hip-hop.
C'est ça.
Alors déjà, du hip-hop à Murat, ça passe.
Ouais, de fou. Ouais, t'as vu, c'est la vibe, c'est les chants, c'est tout.
Mais non, mais parce que tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, on dit, ouais, c'était monter les rappeurs, et puis ils écoutaient plutôt du métal à Murat, et là, bam, vous avez réussi à faire le switch, déjà rien que pour ça, l'adolescent que j'étais, vous félicite. Mais commençons directement dans le vif du sujet. La musique, NBU, selon toi, c'est quoi?
La musique, c'est un échappatoire. C'est un moyen d'évacuer, de canaliser ses émotions. T'as vu, en fait, avec la musique, t'as un titre, d'un coup, il va tabasser, tu vas être dans une humeur. T'as un titre, il va être plus doux, ça va te mettre dans une autre humeur, tu vas être plus sentimental sur un morceau triste et tout ça, c'est toutes ces choses, en fait.
Et c'est ouf, t'es le premier, à chaque fois, en plus, à chaque fois, il y a un sujet alors, qui est abordé, il y a un truc qui ressort. Toi, tu parles d'une échappatoire.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait d'après toi que c'est une échappatoire?
Bah en fait, t'as vu, en vrai, tu marches dans la rue, tu vas mettre ton casque, tu vas t'isoler. Tu vas avoir ton monde à toi.
Ouais.
Donc c'est ton échappatoire. T'as pas envie d'être en contact avec les gens, mets des écouteurs. T'as vu, et puis là, ça passe direct.
C'est vrai que c'est pas faux, en fait. Et est-ce que tu dirais que le côté défoulant aussi, qu'on peut retrouver dans la musique, surtout dans la musique que, par exemple, on fait chez Night Shift Records, qui défoule plutôt pas mal, on écoutera un petit morceau après, est-ce que ça ferait partie pour toi de ça?
Bah à fond. T'as vu, en fait, nous, on produit beaucoup de drill. Et t'as vu, il y a...
Définis drill pour les païens comme moi, s'il te plaît.
Alors, la drill, de base, en fait, c'est un style musical qui est, on va dire, un peu glauque. En fait, c'est des gars de gang qui s'envoyaient des pics et puis qui racontaient comment ils tuaient des gens, des trucs comme ça.
Donc, ah ouais.
Ouais, mais après, ça a été commercialisé et tout ça, tu vois. Et en vrai, ouais, c'est pas de la cornemuse, tu vois ce qu'on fait. C'est-à-dire... ça n'a rien à voir.
Donc, pour traduire, ce serait un truc assez poussif, c'est un style de rap assez poussif, assez exigeant.
Ouais, c'est ça.
Du coup, le mot drill, là, prend tout son sens. Et du coup, excuse-moi, je te laisse terminer. Bah, avec le côté défoulant.
Ouais, bah du coup, tu vois, en plus, il y a ce côté justement défoulant où ça tabasse bien et tout ça, tu vois. Et la musique, c'est aussi un moyen, en fait, de rassembler les gens. Tu vois, les gens, ils écoutent un artiste, bah, ils vont se rassembler sur un concert. Et tu vas créer des contacts, des nouvelles rencontres. Ouais, c'est la musique, en fait, ça rythme la vie. Hein.
Mais c'est magiquement bien dit, la musique, ça rythme la vie, effectivement. Tu sais quoi, je te propose qu'on fasse une courte pause sur ces magnifiques paroles. On va écouter d'ailleurs un morceau d'un de tes protégés, pour ainsi dire, puisque tu en es le manager. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est, s'il te plaît?
C'est J1, c'est mon petit beatmaker, c'est mon premier beatmaker, en fait.
Okay.
Et c'est avec lui qu'on a pu vraiment développer Night Shift, qu'on a pu s'expandre à l'international.
Ouais.
Et c'est un titre avec Russ Million. Et ouais, t'as vu, Russ Million, il nous a ouvert des portes de fou.
Sans blague. Donc on disait combien de millions, de centaines de millions de streams? On est à 130 millions de streams, un truc comme ça, ouais, au total, sur la chanson qu'on va entendre.
Ouais, sur l'original, et puis 35 millions environ sur le remix.
Et ça vient de monter.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est trop chaud.
Reggae et Calypso, Russ Millions, Bunny et Ivy.
Radio Chablais, programme de nuit.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Pour NBU, manager de Night Shift Records à Murat, la musique, c'est une échappatoire. Une chanson va te mettre dans un état émotionnel, selon l'émotion de la chanson. Une échappatoire aussi parce qu'il suffit de mettre tes écouteurs, en fait, quand t'as pas envie d'être avec le monde. Et aussi une échappatoire parce que, suivant quelle musique tu fais, surtout quand c'est pas de la cornemuse, ça défoule. NBU de Night Shift Records, on a écouté un son produit par un Montezan, par J1. C'était c'était Calypso, Reggae and Calypso pour Russ Millions. Toi, qu'est-ce que tu fais en tant que manager? C'est-à-dire, comment est-ce que toi tu abordes la musique depuis ton point de vue et ton rôle de manager?
Moi, en fait, t'as vu, c'est flou un peu, t'as vu, le rôle d'un manager, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, à prendre en compte. En fait, tu vas faire tout ce qui est déjà des négociations. Tu vois, tu vas être, en fait, le point qui va relier un peu tout le monde. Tu vois, théoriquement, les gens, ils sont pas censés aller parler directement avec ton beatmaker, avec ton artiste ou quelqu'un. Tu dois, en fait, directement aller communiquer avec le manager.
Donc, tu es une espèce comme un premier filtre, en fait, pour éviter qu'il y ait tout n'importe quoi qui vienne, en même temps pour garder une ligne directrice claire.
Voilà, c'est ça. Après, je suis aussi contacté par les maisons de disques, par les labels et tout ça directement. C'est vers moi qu'ils viennent prendre les informations, qu'ils viennent prendre contact directement. Comme ça permet aussi à nos artistes, nos beatmakers, en fait, de rester dans leur bulle, de continuer à produire, de faire leur job tranquillement. Et puis nous, on va filtrer tout ça. Et c'est une façon aussi de les protéger, tu vois.
Oui, parce qu'en fait, manager, c'est un job à part entière, parce que être artiste, c'est aussi un job à part entière. Il faut séparer les choses, parce que sinon, c'est un petit peu, comment dire, c'est trop pour une personne.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est trop du moment que ça part à l'international, tu vois. Tu peux gérer si t'es un petit beatmaker, tu places des prods aux gars de ta cité, des trucs comme ça. Franchement, y a pas de galère, t'as vu, parce que c'est tout en interne, on va dire. Mais maintenant, du moment que ça commence à s'expandre, que tu vas placer une prod aux States, une en Grèce, une en Turquie, une au Kosovo, une en Italie, tu vois, à travers le monde, là, ça devient une galère parce que t'es contacté dans des langues différentes à chaque fois, t'es contacté de tous les côtés, tu sais même plus. T'as vu, moi, je te mens pas, moi, c'est une galère, moi, ma tête, des fois, elle explose. T'as vu, je sais même plus en quelle langue je dois envoyer mes messages.
Surtout que tout ça, c'est des pays avec lesquels tu travailles, justement.
Ouais.
Parce que c'est des pays.
Ouais, c'est que des pays avec qui on a bossé, t'as vu. On a un titre, il a fait presque 90 millions de streams en Turquie.
Arrête.
Ouais, c'est Uzi Unutum. C'est une dinguerie. Je savais pas, t'as vu, ils écoutaient de la drill là-bas.
Ok, d'accord. Et ils écoutent 90 millions de streams. Quand même, faut les faire. Comment t'amènes, toi, justement, à avoir des. Est-ce que tu joues, toi, pour que tes musiciens, tes beatmakers soient avec les meilleurs? Ou bien est-ce que c'est plutôt à l'inverse, c'est les meilleurs qui vont venir te les chercher, qui vont venir te les demander?
C'est un peu compliqué. En fait, t'as vu, avec J1, en fait, on bosse sur des packs. Ça veut dire, on va faire des packs de samples, des trucs comme ça. Et les beatmakers internationaux, en fait, vont le prendre et vont utiliser les loops de mon beatmaker pour pouvoir faire des prods complètes avec.
Okay.
Donc, d'un coup, t'as vu, il y en a un, il est grave chaud, mais dans notre pays. Ça veut dire que lui, il va faire sa prod, elle est bouillante, la prod, avec notre loop. Et puis, c'est un gars trop chaud qui va poser, mais il est à l'autre bout du monde, tu vois.
Donc, potentiellement, ça passe par 3 pays.
Ouais.
Tout ça pour une chanson.
Ouais, c'est ça.
Bon, après, remarque, c'est des chansons qui cartonnent et tout ça, mais comment t'expliques ça? C'est uniquement par la technologie, ou bien est-ce qu'il y a un autre développement quelque part dans la musique qui fait qu'on est toutes ces étapes, finalement?
Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que, t'as vu, depuis le monde extérieur, en fait, on a l'impression que le monde musical, il est énorme, c'est un truc de ouf, mais en fait, c'est un monde tout petit où tout le monde se connaît. En fait, du moment que t'as un contact qui est bien placé, tu peux être en contact avec n'importe qui. Parce que lui, il est chez Universal, mais il est branché avec Warner, avec Sony, avec Because. Tu vois, tous des trucs comme ça. Et puis, du moment que tu as trouvé ton contact, c'est bon, les portes, elles s'ouvrent direct.
Et là, c'est même plus facilement à ce moment-là qu'on va venir toquer à la tienne, en fait, pour dire « Hey, excuse-moi, t'as un gars qui est pas mal, là, j'aimerais bien qu'il me fasse un son. »
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ça va, c'est malheureux quand même. Hein.
Ouais, on va dire que c'est malheureux. Moi, ça me fait méfier. Moi, je suis content. Blague. Moi, en vrai, je suis refait. Moi, t'as vu, je bosse avec des artistes que j'écoute. Tu vois, c'est ça qui est ouf. C'est qu'en vrai, t'as vu, moi, les artistes avec qui on bosse, de base, moi, je les ai dans ma playlist. Je les regarde en clip. Tu vois.
Et comment, justement, tu fais cette transition de fan, en fait, à collaborateur, d'une certaine façon? C'est-à-dire, tu bosses avec, tu collabores avec eux?
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, la transition, elle se fait simple. C'est que t'arrives et puis tu sais qu'en fait, toi, t'as besoin de lui et puis lui, il a besoin de toi. Tu vois?
Ouais.
Parce que si t'as pas de prod, t'as pas de son.
Ouais.
Si c'est dans les deux sens, tu vois.
Donc, du coup, toi, tu vas avec, on va dire, le cœur léger ou le ventre, enfin, peut-être un peu moins la boule au ventre, parce que tu dis, bah, il a aussi besoin de moi. Ouais, c'est ça ta technique?
Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. Et puis après, t'as vu, bah, quand tu regardes les chiffres qu'on fait, tu dis, en fait, ouais, on est au même stade. Tu vois?
On fait pas trop mal les choses, finalement.
Ouais, c'est ça. Tu vois, nous, on cumule plus de 600 millions de streams au total. Tu vois?
Avec Nightshift Records?
Ouais. Ouais,
avec un label de Murat.
Ouais, c'est
600
ça.
Millions de streams.
Ouais, c'est ça. Là, j'espère, si tout se passe bien, à la fin de l'année, on a le milliard, tu vois.
Ce serait énorme. Alors, par contre, si vous faites des milliards, les gars, il va falloir me prévenir à nouveau. Parce que bon, quand on fasse une interview, on fait popper le champagne.
Vas-y, direct.
Non, mais c'est un truc de fou. C'est parce que on est le Chablais, mine de rien. Moi, je suis Montezan aussi. Toi, t'es Montezan, je suppose, ou bien?
Ouais, moi, j'ai grandi à Genève. Après, je suis venu ici. T'as vu,
c'est... Mais on est des gars de petites villes. Et il y a des gars de petites villes comme Monté qui sont en train de conquérir le monde. Comment tu l'expliques ça? Est-ce que t'as une explication déjà?
On est trop chaud.
Tu sais quoi? Il y a une expression assez débilose que j'aime bien qui dit, tu sais pourquoi monter il neige pas?
Non, vas-y.
Parce que monter c'est chaud.
Non.
En tout cas, moi qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter en fait finalement à Nightshift Records? Est-ce qu'il y a un dernier truc peut-être, on va plutôt partir là-dessus. Est-ce qu'il y a un dernier petit détail, peut-être une démystification que tu peux nous donner par rapport au fait d'être manager?
Comment ça?
C'est-à-dire, est-ce que manager, c'est un peu... Est-ce que c'est plutôt le chef, c'est celui qui va donner les ordres? Ou bien manager, c'est un peu l'employé qui doit trimer pour toute l'équipe?
Ah, question de merde. Non, déjà, gros big up à mon équipe. Là, je les aime tous trop. C'est mon équipe, c'est mes pépites. Non, en fait, si tu veux, nous, ce qu'on a de bien en fait, dans l'équipe, c'est qu'il n'y a pas de chef. C'est qu'on est tous à stade égal. En fait, on est tous en accord. Et puis il y a personne qui va prendre sa décision sans en parler avec quelqu'un. Tu vois, donc on est tous là, on sait qu'on veut tous se pousser vers le haut. Il y a personne qui se met en dessous, qui traite l'autre comme de la merde ou quoi que ce soit. On est vraiment une famille, tu vois. Et puis que ce soit nos beatmakers, ils collaborent entre eux. S'il y a une possibilité de placement, ils vont la chercher tous ensemble. C'est pas un il fait un truc, l'autre il fait ça, lui il fait ça. C'est tous ensemble. T'as vu, ils se mettent ensemble, ils vont sur Discord, sur machin, ils font leur prod et tout ça. Et puis on augmente le plus possible les chances de placement.
Ok.
Donc y a pas de chef, y a pas de non.
Mais il n'y en a pas un qui trime plus que l'autre, c'est même pas forcément le manager, parce qu'on a peut-être des fois l'image du manager de « Ouais, le gars, il vient, il donne des ordres, et puis après, il passe sa soirée à faire la fête. » C'est pas trop ça, on est d'accord, il y a du job derrière.
Eh, c'est pas du tout ça. En vrai, t'as vu, le manager, il a un rôle de merde. Parce que quand ça va bien, c'est cool. Moi, je kiffe le rôle quand ça va bien, tu vois, je vais pas te mentir. Mais quand ça va pas, c'est le manager qui ramasse. Parce qu'on va pas aller gueuler sur l'artiste. On va pas aller gueuler sur le beatmaker, on va gueuler sur le manager. Parce que c'est lui la personne de contact. Donc c'est lui qui va se retrouver en fait entre une maison de disque ou un label qui est pas content et un beatmaker ou un artiste qui est pas content non plus de l'autre côté. Et puis lui, il doit trouver le confort de son artiste, son beatmaker, et de l'autre côté, le confort du label ou de la maison de disque, tu vois. Donc c'est au manager en fait de départager. C'est à lui de faire les bonnes concessions, d'accepter des choses que de base il aurait peut-être pas accepté, tu vois, c'est ça qui est compliqué.
Ouais, ben comme quoi, si artiste c'est un métier, manager aussi. Merci beaucoup NBU d'être venu nous expliquer tout ça. Bon vent à Nightshift Records, les gars, sérieux, on attend ce milliard là. Et puis je rappelle que tu es manager et producteur chez Nightshift Records. Puis tu n'y réponds dans la question, la musique c'est quoi? Merci infiniment, excellente
merci
soirée.
À vous, hein.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Par ici la visite sur Radio Chablais.
Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut, il fait si bon. Chantait Marie Laforêt il y a 60 ans. Christian Chulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien. Après le Grammont, les Diablerets et les Dents du Midi le week-end dernier, nous nous trouvons à nouveau en terre vaudoise pour évoquer un dernier sommet magnifique de la région.
La chaîne montagneuse face à laquelle nous nous trouvons est décrite en 1848, mais c'est toujours valable de nos jours, comme une arête longue, massive et hérissée de dents, parmi lesquelles on remarque, en allant de la Dent de Morcle ou Diablerets, celle de la Tête Noire, de la Pointe Favre, aussi appelée Dent Favre, du Grand et du Petit Muvran. Le Grand Muvran, géant solitaire, porte sur ses lourdes épaules deux glaciers. Au midi, celui de Plan-Névé, au nord, celui de Panéros. Et cette arête, elle délimite les cantons de Vaud et du Valais.
Continuons donc, Christian Chulet, par le plus majestueux de ces sommets.
À tout seigneur, tout honneur, commençons par le Colosse, celui qui est désigné comme l'un des géants de la chaîne des Alpes vaudoises, le majestueux Grand Muvran, aussi appelé anciennement Mauvran ou Moévran, un Grand Muvran qui culmine à 3061 mètres d'altitude et qui est constitué par trois arêtes qui se rencontrent au point culminant. Parmi les évocations dont il fut l'objet figure celle de l'écrivain et professeur de littérature française Eugène Rambert, dont le nom est par ailleurs gravé en hommage dans le rocher à Pont-de-Nant. Eugène Rambert qui publia en 1871 un ouvrage intitulé « B et ses environs, guide et souvenirs ». La description qui suit en est tirée. Le Muvran, qui se dresse de toute sa hauteur au-dessus du vallon des Plans et le domine de 2000 mètres, n'a que de petits glaciers cachés dans les replis de ses flancs. Vu de la vallée, il ne présente qu'un immense massif de rochers. Ce n'en est pas moins une de ces montagnes auxquelles on s'affectionne. La façon dont il dresse sa tête chauve n'est pas d'une cime vulgaire. Il la porte haute et fière, mais sans morgue ni ostentation. Le profil en est pur autant que sauvage. Et il y a dans cette masse décharnée, je le sais, quelle noblesse native, quelle grâce hardie qui attire et retient.
Poète.
Si ce n'est pas beau, effectivement.
Oui. Christophe Chollet, la montagne attire aussi les amoureux de la pratique sportive.
Oui, le goût et la pratique de l'alpinisme se développent dans la seconde moitié du 19e siècle et le massif attire les touristes. L'arrivée du chemin de fer à Baie en 1857 facilite par ailleurs l'accès au vallon des Plans et aux montagnes environnantes. Dans ce contexte est envisagée la construction d'une cabane dans le massif des Muvrans. À l'initiative des guides des Plans et de Grillon, la section des Diablerets du club alpin suisse décide en 1894 d'y établir une cabane qui rendrait de très grands services pour toutes les excursions dans le massif du Muvran. La cabane en bois est construite par un charpentier lausannois et elle est acheminée, démontée par chemin de fer jusqu'à la gare la plus proche, qui est celle de Ride, puisqu'en effet elle sera montée par le versant valaisan. Des guides de Frenières et de Grillon ainsi que des vignerons de Létron transportent ces matériaux jusqu'à la frette de Saille, l'emplacement qui a été choisi pour l'érection de ce petit hôtel de montagne et qui se situe entre le Grand et le Petit Muvran.
Une fois que la cabane est construite, on l'inaugure ?
Exactement, Pierre. Cette cabane de 21 places est inaugurée le 20 juillet 1895. Et elle est baptisée tout naturellement Cabane Eugène Rambert au Muvran. En effet, Eugène Rambert, qui était décédé 9 ans plus tôt, véritable écrivain alpin, fut en effet, en outre, parmi les membres fondateurs du club alpin suisse. Donc il était vraiment tout désigné pour donner son nom à cette cabane. Celle-ci est située à une heure de marche du sommet du Petit Muvran, qui lui atteint 2820 mètres, et qui est décrit comme une pyramide rocheuse à laquelle on accède par le versant valaisan, un versant revêtu d'une verdure qui lui a parfois valu le nom de Verdant. Et cette cabane, elle est agrandie par une annexe en 1910, puis transformée en 1920, avant d'être démolie en 1953, suite à la construction d'une nouvelle cabane à un emplacement plus favorable.
Mais retour en 1900, Christian Chollet.
Le massif des Muvrans fait partie du décor somptueux que découvrent cette année-là les invités qui prennent place à bord du convoi d'inauguration du chemin de fer de Baie à Grillon. Le Muvran donne son nom à plusieurs hôtels et rues jusqu'à Lausanne et même jusqu'à Échandon. Et il est représenté par de nombreux artistes, dont le peintre chablaisien Frédéric Rouge et l'illustre Ferdinand Audeler, qui séjourne à Chezières en 1912 et peint à cette occasion le Grand Muvran. Eugène Rambert, pour revenir à lui, écrivait que le Grand Muvran avait été orienté par la nature pour resplendir à la tombée du jour. Aucune montagne en Suisse ne s'illumine plus entièrement aux rayons du soleil. Ce n'est pas de la pierre, c'est de la braise. Une montagne incandescente, écrit-il encore. Et c'est sur cette note lumineuse et chaleureuse que prend fin cette série hivernale consacrée à quatre montagnes emblématiques de notre région.
Christian Chollet, merci beaucoup. Nous nous retrouverons, quant à nous, l'été prochain pour de nouvelles histoires liées à la région. À bientôt.
C'était un plaisir, à bientôt.
Et dès la semaine prochaine, et à l'occasion des 40 ans de Radio Chablais, nous découvrirons tout au long de 2024 la région sous toutes ses facettes. Et l'Association du Chablais est notre première invitée, donc rendez-vous la semaine prochaine.
Par ici la visite.
Bonne nuit sur Radio Chablais. 4e de couverture, la chronique littéraire sur Radio Chablais.
La Maison des Jouets est le titre d'un roman paru chez Bernard Campiche, éditeur. Son auteur est avec nous, Carlos Enriquez, bonjour.
Bonjour.
Homme de théâtre, improvisateur et humoriste, vous étiez membre du trio des Putsch, lequel a mis fin à sa carrière en 2022. Vous avez entamé une carrière solo, aujourd'hui metteur en scène, chroniqueur radio, auteur dramatique, auteur de livres pour enfants. Sur la 4e page de couverture de votre premier roman, on peut lire... Alors que son couple bat de l'aile, Hugo Ballast se rend seul dans la maison de vacances. Pourtant, Carlos Enriquez, il était censé s'y rendre avec sa famille, mais que s'est-il passé ?
Oh ben, vous savez, la vie réserve des fois des surprises. Alors, il s'est séparé de sa femme, sa femme s'est séparée de lui, tiens. Et il se retrouve dans une atmosphère insupportable à la maison. Pour ceux qui l'ont vécu, il y a le moment où on habite encore ensemble, mais on n'est plus ensemble, donc... Il se parle plus et il a envie de prendre le large. Donc, comme ils avaient réservé une maison de vacances avec sa femme et ses enfants, ben il se dit, ben je vais y aller tout seul, tiens. Et puis il se retrouve dans cette maison de vacances où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de communication avec l'extérieur, et il est obligé de vivre un peu une introspection en se posant des questions sur lui. Puis comme c'est quelque chose qu'il n'aime pas trop faire, ben il préfère fouiller un peu dans toute la maison. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une maison de vacances louée chez l'habitant, mais on est souvent tenté d'ouvrir les tiroirs, d'ouvrir les armoires, de regarder les livres. Et c'est ce qu'il fait et qu'il se retrouve tout à coup mêlé dans une histoire qui le dépasse complètement, qui devient une histoire policière quasiment à la longue.
Cette maison de vacances se trouve dans un tout petit village où tout se sait. Et d'ailleurs, il va s'en rendre compte assez rapidement parce qu'il fait connaissance avec l'épicière du coin, Mylène.
Qui est un peu la pipelette du village. Finalement, c'est elle qui lui donne quelques clés du mystère, mais sans le savoir, parce que ben, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Hugo Ballas, donc le rôle principal, le personnage principal, il se définit lui-même comme étant un fouille-merde, c'est-à-dire une sorte de paparazzi freelance qui cherche des scoops toute sa vie. Et du coup, quand on lui donne un os à ronger, il fonce dessus à belles dents. Donc, dès que Mylène lui parle un peu du passé du village, ça l'intéresse et du coup, ça l'encourage à fouiller. Et puis, ben voilà, c'est un peu à cause d'elle qu'il se retrouve en mauvaise posture. Mais je vous rassure, hein, ça finit quand même pas trop mal pour les personnages principaux. Puis surtout, j'espère qu'on rigole en lisant mon livre parce que c'était un peu le défi que je m'étais posé, c'est écrire un roman pendant lequel on peut aussi rire, puisque je suis quand même humoriste à la base, et c'est quelque chose qui me définit, je trouve.
Il y a certes Mylène l'épicière, Carlos Enriquez, mais il y a encore un autre personnage qui croise la route d'Hugo Ballas, c'est un vieil SDF qui lui aussi a quelques souvenirs de son passé et du passé du village.
Ouais, c'est ça, c'est Jean-Jacques qui est un vieux SDF dans un village, ce qui est quand même assez rare. Et il se débrouille avec ce que les gens lui laissent comme miettes. C'est un monsieur qui a connu la guerre en étant très très jeune. Il avait à peu près 17 ans quand il est entré dans la résistance et ça l'a grillé. Ce qui fait qu'après ça, il n'a jamais pu vraiment devenir une personnalité notable dans le village. Donc il est resté très très marginal. Et là, c'est un vieux, au moment où commence l'histoire, c'est un vieux SDF qui de temps en temps trouve refuge quelque part, mais la plupart du temps, il dort dehors, enfin, il dort là où il peut trouver un abri. Et puis, c'est lui qui va guider beaucoup notre héros dans sa quête de vérité et de fouiller le passé, on va dire.
Et il a été dit, dans ce village tout petit, tout se sait. Et donc, comme il déterre quelques éléments qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde, il va se mettre en danger, Hugo.
Oui, il va lui arriver des bricoles. Je ne vais pas trop les raconter parce qu'elles me font marrer. J'ai essayé de trouver des sanctions qui pouvaient être plutôt marrantes à lire. J'aimerais pas les vivre, mais voilà. Et puis tout à coup, on l'immobilise. Et puis, il doit entrer dans une sorte d'acceptation qu'on s'occupe de lui aussi. Parce qu'il y a des méchants hein, qui le tabassent, mettons. Et il y a des gentils qui l'aident. Et puis, il doit accepter qu'on soit gentil avec lui, alors que lui, dans sa vie, n'a pas souvent été gentil avec des gens.
Oscillant entre roman policier, vous l'avez dit, roman historique et saga familiale, c'est La Maison des Jouets. Carlos Enriquez, votre premier roman, vous y avez pris goût ?
Ah, j'ai adoré, ouais, j'attends qu'une chose, c'est me mettre au suivant. Même si pendant l'écriture, j'ai déjà pris quelques notes pour faire autre chose, un autre livre. Mais non, j'ai adoré ça, c'est vraiment un exercice qui m'a passionné. Je vous rassure, je continue à écrire des pièces de théâtre quand même. Mais, et je continue à jouer aussi, ce qui ne gâche rien. Et ça me donne une corde de plus à mon arc, et qui en a déjà pas mal, mais vraiment un grand plaisir à l'écrire.
Un roman paru chez Bernard Campiche, éditeur, La Maison des Jouets. Campiche.ch pour plus de renseignements, ou votre site à vous, carlos.li. Carlos Enriquez, merci beaucoup d'avoir été un instant avec nous.
Mais merci à vous, et puis j'espère qu'on se rencontrera par la lecture avec vos auditeurs.
Quatrième de couverture.
Très bon livre d'ailleurs que j'ai lu de Carlos Enriquez qui est écrivain et humoriste notamment. D'ailleurs, on reste dans l'humour, hein, puisque ce matin, on est en 1988 et qu'on regarde pendant cette deuxième heure les films et les comédies qui sont sortis. Eh bien, 1988, c'est la sortie de Un poisson nommé Vonda, un film dans le style des Monty Python avec notamment Jamie Lee Curtis. Alors, on est dans une comédie un peu loufoque, hein, mais qui fait du bien. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, surtout qu'il fait pas très beau ce week-end.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud sur le grill.
De Wouhou, ce sera en concert au Dôme à Sion, vendredi 19 avril, c'est dans quelques jours. Alors déjà, il faut réserver, aller sur le site du Dôme à Sion. C'est normalement un endroit dévoué à l'astronomie, et là, ce sera dévoué à des concerts, deux concerts d'exception à la suite. Et donc le premier avec De Wouhou, vendredi 19. Valérie Martinez, bonjour.
Bonsoir Cyril, enfin bonjour, bonsoir, bonjour.
Oh vas-y, bonjour. Voilà, j'ai expliqué ce que c'est que The Wouhou, on laisse une petite surprise pendant quelques secondes.
Alors c'est le groupe qu'on a mis en place avec Zep et moi-même, et maintenant on est 5 musiciens sur scène, et on compose des automatic songs, comme le nom de l'album, c'est-à-dire qu'on se pose tous les deux et il y a des morceaux qui viennent comme ça assez facilement et on a plein de démos qu'on met ensuite en place en studio.
Alors justement Zep, je me retourne vers vous, bonjour.
Bonjour.
Zep, on sait que ça fait de très nombreuses années que vous faites de la musique, vous êtes lié à la musique. Moi gamin j'ai connu Zep and Greg, il y a une évolution maintenant, mais cette musique elle reste proche de vous, vous en avez besoin, ça reste quelque chose de nécessaire dans votre ADN.
Ah ouais, bien sûr, ça a toujours été quelque chose d'important, mais ça a été confiné à peu de temps, parce que j'avais peu de... La bande dessinée me laissait assez peu de temps. Et puis c'est peut-être la première année, enfin peut-être la deuxième année depuis l'année passée, où je me suis dit que j'avais envie de donner un peu plus d'espace. Aussi la rencontre avec Valérie, qui est chanteuse, et j'étais fan de ce qu'elle fait comme chanteuse. Donc tout à coup, elle m'a proposé de monter un projet ensemble. Et puis voilà, le truc a pris de l'ampleur et c'est devenu So The Who, qui a sorti un premier album cette année. Et puis on le tourne et on a plutôt envie de jouer dans des lieux un peu insolites. Donc le planétarium, c'est idéal.
Justement, ce planétarium à Sion, c'est pas une salle de concert, Zep vient de le dire, Valérie. Ça amène quoi d'autre et qu'est-ce que vous attendez de ce concert, entre guillemets, dans ce côté intimiste et cette relation avec le public très très proche?
Bah, moi, je le fais surtout pour moi parce que je suis fan des planétariums. Voilà.
Il y a un côté, une proximité avec le public qui va donner un lieu, une sorte de lieu magique, de moment magique, de moment d'exception, on le dit à nouveau.
Non, c'est vraiment juste pour moi. Mais aussi pour le public après, oui.
Pourquoi vous êtes fan des planétariums? Vous adorez l'astronomie?
J'ai l'impression, dès que je suis dans un planétarium, j'ai l'impression d'être à la maison. Je trouve que c'est fascinant. On se laisse transporter par ces images, par la personne qui nous explique aussi tout ce qui est la cosmologie. Enfin, je trouve que c'est un côté fantastique. C'est meilleur qu'un film. Donc, de jouer en plus là-dedans, je pense que ça va être assez difficile de se concentrer musicalement parlant.
On va écouter un extrait d'ici quelques instants de ce que vous produisez justement de vous, mais expliquez-nous un petit peu votre univers musical, c'est quoi ?
Là, c'est de la pop folk en anglais. Valérie chante en anglais. Moi, je chante en anglais aussi un petit peu. Et on a enregistré. Bon, donc, le principe, c'est que Valérie, elle est plus soul, moi, je suis peut-être un peu plus rock, mais on a le folk, c'est un peu notre terrain d'entente. Donc, on s'est retrouvés autour de la musique folk. On a deux guitares, on improvise, on a des chansons qui viennent. Et puis, quand on a eu beaucoup de démos, on a commencé à enregistrer des chansons. On est allé dans le studio du groupe Cocoon à Bordeaux enregistrer une partie de notre album. Puis après, on l'a enregistré dans des lieux différents. Il y a une chanson qui a été faite en Norvège, sous les aurores boréales. Il y a des chansons qui ont été faites enregistrées en extérieur, dedans, à la maison. Enfin, on a fait plusieurs studios pour composer cet album. Au final, on a fait un album beaucoup trop grand. On s'est rendu compte, comme on voulait faire un vinyle, on n'arrivait pas à tout mettre. On a pu mettre que 12 chansons alors qu'on en avait genre 25.
Mais... Bon, ça, c'est un grand principe. Hein. C'est que oui. Le but, c'est de produire, de sélectionner. Et puis après, on se dit que les enfants moins sages, ils ressortiront un peu plus tard une autre fois.
Ah, c'est possible. Non, mais c'est vrai, quand ça sort, il faut laisser venir les choses. Et puis, on raconte des choses de nos âges, nos préoccupations, la contemplation, le rapport à nos enfants intérieurs, tout ça. Donc, c'est des petites chansons. C'est souvent des chansons assez courtes, en fait.
de Wouhou à découvrir sur leur univers, leur site internet, et ce vendredi à Sion, il reste que, mais alors quelques places, hein. Allez-y rapidement si vous voulez aller au concert. Leur univers, c'est de Wouhou, W-O-O-H-O-O music.com, et sinon sur le site, bien sûr, du Planète. On écoute une chanson, Automatic Song de The Wouhou, Acceleration.
C'est chaud. Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
C'est chaud. Sur le grill.
L'affiche de l'album, enfin, vraiment, ce dessin que vous avez fait, où on voit un guitariste posé sur son ampli, une chanteuse qui lui tourne le dos. Vous avez chacun vos univers musicaux et pourtant, vous vous retrouvez sur scène.
C'est une bonne analyse.
Vous avez deux univers musicaux. Vous apportez quoi l'un pour l'autre?
C'est la complémentarité.
Elle est essentielle. Justement, c'est quoi cette complémentarité?
Mais en fait, on compose chacun de notre côté, et on avait l'habitude de faire ça depuis des années, et tout à coup de composer à deux, c'est à la fois, c'est une contrainte en fait, parce qu'on passe plus de temps à essayer de convaincre l'autre que notre idée est bonne, mais c'est intéressant parce que ça nous emmène dans des territoires qu'on connaissait pas forcément. Donc on va composer des chansons un peu différemment, on a trouvé un truc, comme on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur comment on boucle une chanson, comment on l'enregistre, comment on la joue. On a trouvé un médiateur qui est super, c'est qu'on fait tout l'album a été fait à feuille, caillou, ciseaux.
Hein? Pardon?
Pas tout l'album.
Pas tout l'album, ouais.
Alors vas-y, fais-moi rêver là, parce qu'il faut m'expliquer le concept.
Alors en fait, il y a une partie de l'album qui était enregistrée dans le groupe Cocoon à Bordeaux, et là c'était lui qui était le producteur, donc c'est lui qui tranchait. Mais autrement, quand on est les deux, qu'on enregistre les deux à la maison, pour éviter d'essayer de convaincre l'autre qu'on est sûr que notre idée est la bonne et qu'on compose tous les deux, bah on fait à feuille, caillou, ciseaux, et c'est le destin qui l'emporte. Et ça marche assez bien.
C'est magnifique. Bon, dernière question, Zep, forcément. Cette évolution musicale, moi, elle ne me surprend pas, parce que justement, j'ai vu Zep & Greg il y a de très quelques nombreuses années. Sinon, ça va vieillir et ça ne fait pas bien. Mais il y a quelques années, cette musique, elle a toujours, on l'a dit, hein, dès le début de l'interview, elle est en vous. Et là, on a l'impression que vous avez envie d'y consacrer du temps, un peu plus de temps.
Oui, parce que jusque-là, c'était quelque chose qui était vraiment un hobby. Et j'étais accaparé par la bande dessinée. Là, j'ai déjà fait 55 albums de bande dessinée. Je me dis que je peux m'octroyer un petit peu de temps libre pour faire de la musique.
Parce qu'on a l'impression que sa musique, ça aurait pu être la même passion que la BD. Si le temps avait été là, vous auriez aimé remplir des stades, aller chanter devant 50 000 personnes.
Je pense que c'est la même passion que la bande dessinée. Je peux pas dire que je joue tous les jours de la guitare. Après, j'adore pas forcément. C'est pas forcément mon kiff de jouer devant 55 000 personnes. J'ai jamais essayé. Je sais pas. Peut-être que j'adorerais ça. Mais a priori, c'est pas l'aspect de la musique qui m'intéresse le plus. Mais c'est de vraiment de fabriquer des chansons, de regarder comment elles viennent, comment elles naissent, les enregistrer. J'adore ça.
Oh ben, l'avantage, c'est qu'au dôme, à Sion, sous le planétarium.
Sous les étoiles.
Non. Ce ne sera pas 55 000 personnes.
Ce sera sous 55 millions d'étoiles. Peut-être même milliards. Donc.
Et ça relativise pas mal le concept, non?
Vachement, ouais. Ouais.
On rappelle, c'est donc ce vendredi 19 avril au Dôme à Sion Planétarium. Merci beaucoup à vous.
Merci Cyril.
Merci beaucoup.
Et l'univers de Wouhou, c'est à découvrir aussi sur leur site internet de wouhoumusic.com. Comme allez voir, c'est vraiment très 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 chouette, très sympa, ça fait du bien.
C'est chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde s'est toujours mis quelque part entre Vouvry et Thanet, c'est magnifique. Il fait beau. Mon guide, c'est toujours Gérard. Et puis, là, on se trouve devant la fontaine. Pour cette capsule, je voulais que tu me parles d'une histoire un peu ancienne. Et tu vas me raconter déjà, quand toi, t'étais gamin, tu t'amusais dans cette fontaine-là.
Oui, on se baignait. Bon, on n'avait pas vraiment le droit de se baigner parce que le bétail venait s'abreuver, alors il fallait pas salir l'eau.
On le faisait quand même. Et puis, on va remonter en direction de ton chez-toi. Parce que c'est là que se trouve l'histoire que tu veux me raconter. Parce que cette maison, elle appartenait à ton grand-papa.
Oui, c'est mon grand-père qui avait construit. Et en face, il y avait la maison où j'habitais en France. Maintenant, elle ne m'appartient plus. C'est pour ça que je fais cet appartement dans ce lieu.
Ouais, tu es en train de rénover ta maison, là, quelque chose de puissant. Ouais.
Oui, il y a un four à pain que, voilà, qui...
Comment ça se fait qu'il y avait ce four à pain-là? C'est grand-papa qui l'a construit?
Alors oui, ils ont utilisé ce four. Mais c'est dommage, à l'époque, je ne m'intéressais pas plus que ça. Mais ils ont utilisé ce four jusqu'après-guerre, oui. Mais ils faisaient le pain, là, pour le village. Et ici, à la maison qu'on a à côté aussi, il y avait un four à pain. Mais qu'après, il n'était plus utilisé parce qu'il était trop grand, il était trop long à chauffer.
Ah oui, il était trop long à chauffer par rapport au nombre de pains qu'on avait besoin de faire, en fait.
Voilà, oui, exactement. Tandis que là, c'est un four qui n'est pas très grand, qui fait 1,20 m de profond, qui fait 60 de large et 35 cm de hauteur. Alors... théoriquement, je vais essayer parce que j'ai encore jamais essayé.
Ou arrête.
On pourra le chauffer en 24 heures.
Donc, c'était ça le temps qu'il fallait à l'époque pour chauffer un four à pain. C'était gentiment 24 heures. Tout était du boulot à l'époque, en fait.
Mais oui, ben, ils prenaient leur temps, ils chauffaient. Et il faut le chauffer modérément, il ne faut pas le monter en température trop vite. Il ne faut pas utiliser du bois dur parce que la chaleur est trop violente. Il faut utiliser du sapin. Bon, j'ai un copain qui est spécialiste dans la spécialité. Il sait comment on fait. Il va venir me montrer pour une première.
Ouh, alors ça, et là, on rentre dans le four. Donc on est vraiment tout en bas de la maison. Hein. C'est pratique de mettre le four en bas, ça chauffe la maison aussi en hiver. Et voilà, donc vraiment une toute petite porte, une toute petite ouverture. C'est, on dirait presque une meurtrière. C'est une toute petite porte.
Toute petite porte, oui, c'est une toute petite porte. Bon, il faudra refaire, là, il faut refaire les joints, mais autrement la pierre était bien conservée. Et après, ici, il y aura un agencement pour qu'on puisse travailler. Et j'ai déjà deux potes qui travaillent dans l'industriel, qui sont boulangers, mais eux, ils adoreraient, leur rêve, c'est de faire du four artisanal, faire du pain artisanal.
Et de quelle année le four, on sait plus ou moins quelle époque?
Alors, la maison ici, elle aurait 120 ans. Maintenant, je pense que ça a été fait à cette époque-là.
À peu près.
À peu près. Ouais. Je ne m'intéressais pas trop. J'étais jeune
et insouciant.
D'autres.
Il y avait d'autres choses. Ouais.
Réapprendre à prendre le temps, c'est peut-être aussi ça, une des solutions.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Alors, vous l'aurez pas manqué ce week-end, il a fait super beau et il a fait super chaud aussi. Des températures pas du tout de saison, avec des 25 et des 26 degrés par endroit, ressenti 30 en plein soleil. Et j'avoue que ça fait quand même plaisir, hein, ça fait du bien à l'âme. Sans compter qu'on s'est fait le plein de vitamine D. Et ça, c'est pas de la tarte, vu que apparemment on est toutes et toutes censées avoir des carences en vitamine D. Enfin bref. Et j'avoue que je fais partie de ces gens qui ont commencé à rallumer la clim. Moi, je me suis chauffée hein, dans tous les sens du terme. Je me suis crue en été déjà. Et résultat, je me suis chopée une petite crève. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vous confirme que c'est pas encore une si bonne idée que ça de rallumer la clim tout de suite. Mais par contre, en faisant des recherches sur justement la climatisation, j'ai trouvé des infos complètement folles que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, on sait que la clim, ça peut nous donner la crève, surtout quand c'est mal utilisé. Alors, je sais que ça améliore pas mon cas, mais c'est pas grave, hein, je suis un livre ouvert ici avec vous, je vous raconte ma vie en toute transparence. Quand c'est mal utilisé, c'est-à-dire qu'il y a un décalage de plus de 4 degrés entre la température de dehors et là où vous utilisez la clim, alors dans mon cas, c'était la voiture, c'est là que ça peut provoquer des chocs thermiques et puis ça, c'est méga dangereux pour votre santé. On sait aussi que la clim, ça assèche les muqueuses du nez et de la gorge et du coup, ça devient plus vulnérable aux microbes et c'est comme ça qu'on chope la crève. Et ça assèche aussi les yeux. Et puis, si vous pensez c'est pas trop grave, au pire je mettrai des gouttes de sérum physiologique, figurez-vous que la clim en plein visage, ça augmente le risque de conjonctivite. je pose ça là. Moi, perso, depuis que je sais ça, eh bien, j'évite. Le mieux, c'est de garder la clim dirigée vers les pieds et de l'éteindre environ 15 minutes avant d'arriver à destination. Et évidemment, chose que je n'ai pas faite. Faites comme je dis, pas comme je fais. Hein. Donc, le truc que j'ai trouvé fou et que je ne savais pas, ben, en fait, c'est que la clim, elle a quand même des effets positifs sur la santé. Ça réduit apparemment le risque de maladies cardiovasculaires. En fait, quand on a trop chaud, ça pèse lourd sur le cœur et donc il doit faire plus d'efforts pour pomper le sang dans le corps. Et donc, si on utilise quotidiennement la clim, plus que le ventilateur, on améliore sa santé cardiaque. Moi, j'y croyais pas trop au début, mais il y a une étude américaine qui date de 2018 qui a été faite dessus et qui a publié ses résultats. Et l'autre truc que j'ai découvert, c'est que c'est bon pour les poumons, à condition d'avoir un filtre à particules, ce qui permet d'éliminer la poussière, les virus, les allergènes, comme le pollen, par exemple. Bon, je suis allée regarder les prix de ces machines-là, et je vous cache pas que ça coûte un bras et un rein, mais franchement, au point où on est rendu, est-ce que ça ne vaudrait pas quand même la peine? Bon, on est d'accord, on n'est pas encore là hein, au niveau des températures, mais au moins, vous savez ce qu'il vous reste à faire cet été quand il fera beaucoup trop chaud. Et au moins, je me dis que je ne serai pas tombée malade pour rien parce que j'espère que vous aurez appris un truc aujourd'hui. Voilà, voilà.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Bon, et comme c'est de saison, aujourd'hui, on va s'attarder sur l'expression « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Et moi, je l'ai trouvé très à propos, hein, cette expression, parce que vu que ce week-end, il faisait beau, moi, je me suis crue en été, j'ai fait des folies en mettant la clim dans ma voiture à